Comment vous envisagez la délimitation que représente le dossier, par exemple? Et le rapport, enfin, c'est une question de rapport que vous faites entre événements discursifs. C'est-à-dire, par exemple, il y a une nouvelle approche, on peut dire, après, à partir de la moitié des années 70, de la question de l'aveu et de la confession chez Foucault. Par exemple, on peut mettre ça en rapport avec le fait parfois il reconstruit des récits de vie, comme dans l'entretien avec Thierry Wotzel. Voilà, un peu. Où il est l'interlocuteur anonyme de Thierry Wotzel. Enfin voilà, comment vous voyez la délimitation qu'introduit le dossier, qui n'est peut-être pas la même que la délimitation qu'introduit la couverture du livre. Enfin, voilà.
Je vais peut-être répondre quasiment par l'intervention, ouais. Puisque oui, précisément, et ça je crois que ce n'est pas totalement étranger au fait que je travaille en histoire, et que enfin, un certain nombre d'entre nous travaillons sur des archives, et que c'est bien c'est compliqué, c'est bien la pratique d'archivage qui conditionne à certains égards, on le verra, on va le voir concernant le désordre des familles, quelque chose de précisément une réponse à votre question, parce que Jean-François vient de dresser ce panorama des objets qui sont et qu'on a investigués, alors plus ou moins tous, certains seuls, dans ce programme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que le travail du chercheur, là, il se diversifie aussi, consiste pas seulement à produire ses propres analyses, mais à produire des ressources et des outils. Bon, ça, je crois que c'est quand même quelque chose qui... Et c'est bien... C'est vraiment important pour comprendre la démarche. C'était exactement le sens du travail que nous avions mené avec Michel Zancarini et Laurent Quairot autour d'un séminaire, autour du groupe Information Prison et autour d'une espèce d'inventaire de la documentation et des archives, puisque c'était des documents qui avaient été conservés par des acteurs du GIP, concernant le groupe Information Prison. C'est aussi le sens du travail que nous menons, alors c'est un certain nombre de gens ici, et ça va au-delà du groupe de l'ANR, autour du portail Michel Foucault, et notamment de un aspect qui est l'aspect bibliographique. Hein. S'agit de permettre aussi... et c'était, je me souviens, le titre d'un ouvrage déjà ancien que Lugiard avait dirigé il y a des années, qui était « Lire Foucault hein. ». C'est bien permettre de lire Foucault, non pas selon une doxa, mais une lecture que je qualifierais d'outillée et de documentée. Et de ce point de vue-là, en tout cas pour nous qui avons été... qui avons découvert Foucault, qui sommes rentrés dans Foucault un peu avant les dix écrits, mais dont les dix écrits ont été finalement un moment. Hein, il y a trois générations de réception. Il y a une génération qui a lu Foucault au fur et à mesure des livres, et puis il y a une génération ensuite qui est venue et qui a lu avec les dix écrits, et une troisième génération qui est sont les étudiants aujourd'hui, les doctorants aujourd'hui, qui entrent dans Foucault par les cours. Bon, eh bien, je veux dire, l'apport essentiel des dix écrits, c'est à la fois évidemment ce que les quatre volumes apportent, mais c'est aussi l'appareil critique fait, la chronologie de Daniel, et chacun des chapeaux. Et je crois que l'édition des cours va tout à fait dans ce sens-là, avec les situations. Donc quand je dis... situation, située, une lecture située, vous verrez qu'il me semble que ça s'inscrit dans ce processus, qu'on a un peu tendance à laisser de côté, et que, par exemple, les dix écrits avaient magistralement montré. Même si, évidemment, la question des supports de production est très différente. Donc, c'est bien, je voudrais donc rendre compte d'une exploration, pour reconstituer ce que on aurait envie d'appeler une séquence de recherche, peut-être pas un dossier, mais une séquence de recherche, pour que d'autres puissent investiguer ce dossier ensuite. Alors, je dirais deux mots de méthode. J'en ai dit déjà un, donc je me contenterai du second. Situer le texte dans le parcours foucauldien, dans son temps, donc dans le temps de la pensée de Foucault, mais aussi dans le temps de la pensée du moment intellectuel, hein, pour reprendre l'expression de Worms reprise par Judith hier. Je crois que c'est aussi le sens d'un séminaire qu'on fait ici avec Judith, Vincent Duclair et Perrine Simon-Naoun. C'est aussi prendre en compte sa dimension éditoriale. Et vous verrez que dans le cas du désordre, c'est une chose importante. Éditorial, ça ne veut pas dire systématiquement Pierre Nora, ça veut dire au-delà de Pierre Nora, qu'est-ce que c'est que publier un livre pour Foucault. On a vu hier, avec Patrick Boucheron, combien chez Duby, il y avait une articulation très forte entre les cours et l'édition des livres, hein, une sorte de va-et-vient permanent. On verra cet après-midi ce qu'il en est pour les cours. C'est aussi, dans cette approche, intégrer le discours de réception et, on l'a vu, prendre au sérieux le discours des témoins. Le prendre au sérieux, ça ne veut pas dire systématiquement dire ils ont tort, ils se trompent, etc. Mais prendre au sérieux aussi la mémoire du travail, comment ça s'est passé, mais comment on s'en souvient aussi. Et de ce point de vue-là, et ça c'est vraiment pour moi quelque chose d'essentiel, considérer l'archivage comme faisant partie du processus de pensée. Refuser de ce point de vue-là toute une logique qui est quand même extrêmement forte dans le champ des sciences sociales aujourd'hui, qui opère un partage dans l'archivage entre ce qui a de la valeur, ce que j'appelle le gisement, et les archives mineures. C'est-à-dire mettre ensemble le manuscrit quand il existe et l'ensemble, y compris les photocopies de la Bibliothèque nationale. De ce point de vue-là, ne pas hiérarchiser les sources. Et ça, c'est un point de méthode pour moi extrêmement important et pour nous extrêmement important, c'est de ne pas tomber dans une génétique textuelle tout en pouvant quand même utiliser un certain nombre d'outils que la génétique a produits. Je vais parler donc du dossier du désordre des familles en commençant par un témoin, le discours d'Arlette Farge concernant ce livre. C'était chez nos camarades et amis de Vacarme, un entretien qu'elle avait donné en 2001, où Arlette Farge soulignait combien ce livre avait été finalement non seulement oublié, mais méconnu et immédiatement comme vous pouvez le lire, font objet d'un silence. Objet d'un silence, livre quasiment, et j'en reparlais avec elle encore il y a quelques jours, livre banni, livre douleur, disait-elle. À tel point, et j'ai d'ailleurs, à tel point que, bon, on a eu une grande discussion avec elle, savoir si je pouvais, évidemment que je peux, mais est-ce qu'elle acceptait que je prenne ce dossier, que nous prenions ce dossier, que nous l'investiguions puisque j'ai vérifié, par exemple, dans le dictionnaire des intellectuels, dans la bibliographie, il n'y a pas le désordre des familles. Hein. Il y a un certain nombre de bibliographies où ça saute. Dans les éditions Gallimard, ça ne saute pas. Hein, dans tous les, mais il y a, ça, c'est un livre qui saute. Un livre, pourtant, dont l'objet ne cesse d'hanter les travaux de Foucault, c'est la lettre de cachet. et ce, dès la fin des années 50 jusqu'à 82. Alors, on peut, de ce point de vue-là, alors là, vous avez une photocopie, je vous dirai d'où elle vient ensuite, et une photocopie d'une de ces lettres. Hein. Vous pourrez, je crois, en voir prochainement à la bibliothèque de l'Arsenal, puisqu'une exposition sur le fond du Châtelet va ouvrir. Je vous encourage à y aller. Le premier, disons, une des premières mentions des lettres de cachet, outre Histoire de la folie, c'est Jean-François qui, à l'occasion, il ne l'a pas dit, mais à l'occasion de l'inventaire de l'INA, a écouté, transcrit un certain nombre d'émissions, me l'a fait écouter, et donc on va vous diffuser ce court extrait. Et puis j'ai le texte.
Cet âge classique, c'est un fait massif, un fait historique. Sourd, qui est resté longtemps silencieux, peut-être n'est-il pas très important pour l'histoire des historiens. À moi, il me paraît d'un grand poids pour qui veut faire l'histoire d'une culture. Le voici. Un jour d'avril 1657, on a arrêté à Paris à peu près 6000 personnes. 6000 personnes dans le Paris du XVIIe siècle, c'est à peu près un centième de la population. C'est comme si, par exemple, si vous voulez, on arrêtait actuellement dans le Paris d'aujourd'hui quelque chose comme 40 000 personnes. Ça fait beaucoup et on en entendrait parler. Ces gens, on les emmenait à l'hôpital général. Pourquoi ? Ou bien parce qu'ils étaient chômeurs, ou parce qu'ils étaient mendiants, ils étaient inutiles. C'était des libertins, c'était des excentriques, c'était aussi des homosexuels, des fous, des insensés. Et on les envoyait à l'hôpital général sans qu'on ait pris à aucun moment contre eux une mesure juridique précise. C'était une simple précaution de police, un ordre du roi, ou encore, ce qui est plus grave à mon sens, une simple supplique de la famille suffisait à envoyer tout ce beau monde à l'hôpital. Et à l'hôpital pour la vie. Cet hôpital n'était évidemment rien d'hospitalier, c'était beaucoup plus une sorte de grande prison où l'on gardait les gens à vue, et où souvent on les gardait à vie. Cette pratique, elle a duré près d'un siècle et demi, et de cet énorme rituel d'exclusion, qu'on a rarement interrogé d'ailleurs, on n'a gardé que quelques registres poussiéreux qu'on trouve actuellement dans la bibliothèque de l'Arsenal. Et sur ces registres, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, la longue rhapsodie des motifs d'internement. Je crois qu'il mérite d'être écouté. Ces décrets que la raison d'État, c'est-à-dire finalement la raison des gens de police et la raison des gens de tous les jours, portaient sur la folie des autres. Voici par exemple quelques motifs d'internement pour le mois de janvier 1735.
3 janvier 1735, Bar Catherine. C'est une prostituée publique qui cause beaucoup de désordre dans son quartier. 6 janvier, forestier Jean-Pierre, il tombe souvent en frénésie, en raison de quoi il a été condamné à Rouen à être enfermé.
Donc ça, c'est une émission France Culture de 1961 qui s'appelle « Le silence des fous ». Mais la présence des lettres de cachet, j'ai essayé de faire petite recherche, on la retrouve surtout massivement dans les années 70, et l'édition des cours nous y aide beaucoup pour retrouver quelques éléments. C'est le cours du 7 novembre, à nouveau à propos du pouvoir psychiatrique et de la folie. Foucault fait référence explicitement à ces documents, même si là, évidemment, ce n'est pas, comme on va le voir, l'objet, lettre de cachet qui l'intéresse, mais ce que ça dit. Puis ensuite, dans le cours de 75, le cours sur les anormaux, où Foucault voit dans lettre de placé et les lettres de cachet, au fond, sorte d'archéologie de l'expertise psychiatrique. Et puis, évidemment, les choses ensuite vont aller en intensité, puisque dès 77, une partie, hein, on le sait, de la vie des hommes infâmes, disons de son texte, la vie des hommes infâmes, a été inspirée par la lecture de ces documents. Je vous cite un des paragraphes, hein, de ce texte dédié écrit. Il s'agit de documents qui tous datent à peu près de la même centaine d'années, 1660-1760, et qui viennent de la même source, archives de l'enfermement, de la police, des placés du roi et des lettres de cachet. Supposons qu'il s'agit là d'un premier volume et que la vie des hommes infâmes pourrait s'étendre à d'autres temps et à d'autres lieux. J'ai choisi cette période et ce type de texte à cause d'une vieille familiarité, on l'a vu. Mais si le goût que j'ai pour eux depuis des années ne s'est pas démenti, et si j'y reviens aujourd'hui encore, c'est que j'y soupçonne un commencement. En tout cas, un événement important où se sont croisés des mécanismes politiques et des effets de discours, mise en discours du quotidien, dit-il plus loin, une sorte de mise à la disposition des mécanismes de la souveraineté. Et ensuite, dans l'entretien avec David Cooper, il y a à nouveau question. Comme là aussi, peut-être un élément qui annonce la loi 1838. Et enfin, 81, autour de la gouvernementalité, il replace le dossier travaillé sur les lettres cachées dans son programme sur la gouvernementalité. Je vous ai mis l'extrait dans le travail du côté d'Arlette Farge, où il est question dans son livre de 79, avant l'engagement du travail avec Foucault, des lettres de cachet, et là, l'inscription autour de la pratique de la police. Ce livre ce livre du désordre des familles, je l'ai dit, objet méconnu, mais objet quasiment récurrent de l'œuvre de Foucault, surtout dans les années 70, n'a pas d'équivalent. Et on peut se demander si, par contre, la figure des lettres de cachet ne correspond pas à type de d'objet chez Foucault, serait le qualifier, qui pourrait être l'équivalent du panoptique de Bentham ou du tableau de Velázquez. En tout cas, c'est peut-être une hypothèse à creuser. Mais ce projet des lettres autour des lettres de cachet, il s'inscrit aussi dans une histoire éditoriale. La collection Archives, dont vous savez que Pierre Nora est le directeur d'abord chez Julliard, puis il co-dirige la collection avec Jacques Revel à partir de 1970. Il faut ne pas oublier que cette collection fondée par Nora en 64, dès les premiers titres, porte une mention d'un ouvrage à paraître de Michel Foucault. Nous avons vu ça avec Patrick Bouchon et Yann Potin il y a quelque temps. Ce livre, j'ai mis la mention, ça est le titre provisoire, en était Les Fous, deux points. Michel Foucault raconte du 17e au 19e, de la Bastille à Sainte-Anne, le voyage au bout de la nuit. Cette collection, qui mériterait à elle seule, je crois, un vrai travail d'enquête, il ne faut jamais oublier que c'est une collection qui a abrité et qui a publié nombre des historiens de la période. Je vous en ai mis quelques éléments, et pas des moindres, puisqu'il y a un certain nombre de collègues de Foucault au collège, mais aussi, disons, d'historiens qui marquèrent la période, de Guéret-Mecq à Jean Métron, de Michel de Certeau à Georges Duby ou à Pierre Coubert. Cette collection, et ça me paraît très important, elle n'est pas du tout neutre, et en même temps, Foucault va y publier deux titres. Ce qui est dans la collection n'arrive quasiment pas, enfin en dehors de Georges Duby, qui en publie deux, dont le dernier, sur le procès de Jeanne d'Arc, qui succède au Moi Pierre Rivière, et qui nous vaut une autre source d'information sur le Pierre Rivière, Nora écrivant à Duby en disant « Tout ce que je souhaite, c'est que ça se passe mieux que pour le Rivière. » Peut-être qu'on aura d'autres éclaircissements. Mais aussi le fait que, et souligner tout de suite, que Arlette Farge a aussi déjà publié dans la collection, elle publie en 79, Le Désordre c'est 82, donc il y a là quand même, disons, une familiarité à une collection. Une collection dont il faut souligner et qui neutralise quelque peu aussi le caractère spécifique du livre, c'est que c'est une collection, comme son nom l'indique, d'archives. Vous cite le texte, disons, une sorte de... on dit aujourd'hui l'argumentaire de la collection. L'une des phrases dit « La collection archive », d'ailleurs, elle s'achève là-dessus, « ouvre à tous la porte du laboratoire. Elle met les bibliothèques dans la rue et les dépôts d'archives dans la poche. Bon, » aujourd'hui, je dirais que c'est vraiment... tout à fait passionnant comme type de proposition au regard de ce que aussi cette collection a permis dans le champ des sciences sociales. C'est aussi, je le dirais, le fait que cette collection donne à voir ce que, en reprenant l'expression de Foucault, je disais hier, le derrière de la tapisserie, plus facilement que un livre, une monographie classique. C'est enfin, et c'est ce qui m'intéressait et ce qui m'intéressera, le temps d'un dialogue, avec les historiens. Ce livre s'inscrit dans une tentative aussi de travailler collectivement. On avait parlé précédemment de du groupe Information Prison et de la manière dont ce groupe a pesé fortement, Foucault le dit à plusieurs reprises sur, et Judith dans, encore dans, dans la réédition de ton livre avec des ajouts, je voyais ça hier soir, enfin notamment une postface, tu mets l'accent là-dessus sur l'importance, y compris dans le travail, de ce qu'a pu être l'expérience du GIP. C'est aussi donc un moment où Foucault tente quelque chose collectivement dans cette décennie 68 et on peut citer ce dossier dont Jean-François a donné des éléments, qui a fait l'objet d'un séminaire à Paris 8, le cas Rivière, mais aussi des objets oubliés, j'en ai rappelé quelques-uns, par exemple les machines à guérir, dont l'éditeur n'est pas Gallimard Julliard, mais qui se présente de la même manière, dossier présenté par Michel Foucault, Barry Kriegel, Anne Talamy et François Béguin, qui date de 79. Donc on a quand même à ce moment-là un certain nombre de participation de Foucault à... Alors, le désordre, il est d'un autre ordre. Il est une collaboration avec une historienne. Et c'est ça, au fond, moi qui m'intéresse. Je dirais même au-delà du cas d'Arlette Farge et de Michel Foucault. C'est qu'est-ce que c'est qu'une collaboration intellectuelle ? Qu'est-ce que c'est qu'écrire, deuxième niveau, qu'est-ce que c'est qu'écrire un livre à deux ? Évidemment, on voit combien il y a des effets des questions autres qui sont, évidemment, qu'est-ce que c'est qu'un philosophe quand il écrit avec une historienne? C'est peut-être ça qui est... qu'est-ce que c'est qu'un philosophe qui est au Collège de France, qui écrit avec une historienne, qui est au début de sa carrière, hein? Disons que Arlette Farge, élève de Mandrou, avait soutenu sa thèse, et c'est à la fin des années 70 qu'elle obtient un poste au CNRS, mais jusqu'à pendant un certain nombre d'années, elle est encore vacataire. Donc, qu'est-ce que ça donne à voir comme type de... Ah, ben la voilà, justement. Qu'est-ce que c'est que cette collaboration? Surtout, quel type d'opération, quel geste? Bref, il me semble qu'il y a là une scène de recherche à investiguer rétrospectivement. Et le livre indique, outre cette première, sur le revers de la page du plan, Arlette Farge est chargée de recherche au CNRS, cite donc l'ouvrage de Vivre à Paris, et Michel Foucault, professeur au Collège de France, s'est interrogé sur les procédures de l'enfermement et de la punition. Ça, dans la page suivante, il est fait mention, par une petite note, de ce travail avait été préparé en collaboration avec Christiane Martin, qui s'est dévouée jusqu'à ces derniers jours. Cette tâche a été reprise et complétée par Agnès Lano. Donc le livre indique donc deux principaux auteurs et en vérité trois autres collaborateurs qui sont aussi François Bourin qui s'occupe du cahier iconographique. C'est donc autour de ce travailler ensemble que l'essentiel de ce que je voudrais dire va se passer. Alors, comment on a procédé? Je disais prendre au sérieux les témoins, c'est donc faire un certain nombre d'entretiens et d'abord établir une première chronologie. Et ça, je dois entretiens à la fois informels avec Daniel Defer et formels avec Arlette Farge, puisque nous avons réalisé avec Arlette deux entretiens, un qui a rassemblé quatre d'entre nous, successivement, une fois chez elle et une fois au laboratoire. Je situe bien les énoncés. Donc avec une chronologie très précise, c'est-à-dire qu'il y aurait eu une campagne dont d'ailleurs Foucault témoigne dans le cours sur les anormaux de 75, puisqu'il précise dans le cours j'emprunte ceci au travail qui est en train de faire Christiane Martin sur ses lettres de cachet. Vous allez reconnaître exactement le même type de discours que celui qui est actuellement utilisé par les psychiatres. Bon, qui fait explicitement référence et qui cite ensuite une lettre de cachet qu'on retrouve d'ailleurs dans le désordre des familles et que les éditeurs d'ailleurs du cours, en l'occurrence, c'est Fontana, Marchetti et Salomoni ont retrouvé. Donc ça, c'est le premier moment. Et ensuite, une période de travail qui s'étend entre 80 et 81, après, au préalable, un échange de correspondance entre Arlette Farge et Michel Foucault, Michel Foucault sollicitant Arlette Farge. Puis la publication à distance de cette séquence de travail du livre. Et cette publication ne faisant pas l'objet, selon à la fois, et là c'est le discours d'un des éditeurs, en l'occurrence Jacques Revel, et d'Arlette Farge, de correction majeure des éditeurs. En gros, il n'y a pas eu de... Ce qui est important de souligner, c'est que dans ces entretiens, Arlette Farge, et c'est une chose qu'on sait depuis un moment, puisqu'on avait exposé une des pièces le montrant il y a bien longtemps maintenant, en 2004, Arlette nous avait prêté cette pièce, que immédiatement, dans cette phase cette séquence de travail, s'est opéré un partage, un accord entre Arlette Farge et Michel Foucault, pour distinguer dans les lettres de Caché deux thématiques et se les partager. Une première qui portait sur le rapport des parents et des enfants et des enfants aux parents, hein, les lettres demandant l'internement soit d'un parent, soit d'un enfant, dont Michel Foucault s'occuperait, et les lettres relevant des couples, dont Arlette Fage s'occuperait. Pour une raison, dit Arlette Fage, c'est que Foucault ne souhaitait pas, à la suite d'ailleurs d'un certain nombre de la réception de la volonté de savoir, engager une nouvelle discussion avec les féministes. Et donc, Foucault aurait préféré, préféré s'occuper de cette partie du corpus. Et que, donc, il y a d'une part ce partage, et que le texte est introduit par un texte écrit ensemble, et le volume se clôt par un dernier texte, là aussi écrit chacun de son côté. Mais, comme le précise Daniel Defer dans la chronologie des dix écrits, avec un principe adopté sans individualisation, c'est l'expression de Daniel, d'écriture. Donc ça veut dire que les textes n'étaient pas signés. Alors, qu'est-ce que c'est que les archives d'une collaboration ? Ben, précise. Évidemment, les archives d'une collaboration, ce sont des archives qui sont par nature... généralement partagé en deux, en trois, en quatre. Vous avez devant vous deux de ces éléments qui nous ont été proposés de manière d'ailleurs dans des contextes très différents. Premier contexte, Arlette Fage, puisque nous avions, en déposant le dossier, la demande de programme anticipé et demandé à Arlette si elle l'accepterait, de nous montrer le dossier, elle nous a offert de consulter, je dirais, la majorité du dossier d'archives dont elle était, qu'elle conservait. Alors, je dis la majorité parce qu'elle a souhaité y enlever un certain nombre d'éléments qui étaient des éléments personnels, de correspondance ou des notes relevant simplement de ces. Disons, qui ne relevait pas du travail scientifique à ses yeux. Elle nous a donné, vous le verrez, un dossier volumineux et un dossier qui est conforme aux autres dossiers qu'elle conserve pour chacun de ses livres. Donc, il n'y a pas une spécificité de l'archivage là, c'est une pratique qu'Arlette Fage a d'archiver chacun de ses chantiers et de ses livres. Pour Michel Foucault, l'occasion est très différente, puisqu'il s'agit, et ça peut constituer un biais, en fait, d'un dossier que vous avez là, un dossier que Daniel Defer nous a présenté dans le cadre d'une exposition. Donc là, il y a absolument, enfin, c'est des choses qu'on a pu voir à Lyon. C'est un dossier qui porte le titre La vie des hommes infâmes. Tout à fait intéressant. Un dossier divers, et un dossier, enfin, je dis divers parce que composé de choses très, très variées, même si chronologiquement. Non, même pas si chronologiquement, en fait très varié. Et c'est ça qui sera, je crois, donc un dossier qui, vous voyez, qui s'intitule d'ailleurs Dossier Foucault, et un autre qui s'intitule La vie des hommes infâmes. Mais il faut le préciser immédiatement, c'est une mention que Daniel Defer a portée sur cette chemise. Ce n'est donc pas un archivage de Michel Foucault. Non, l'archivage de Michel Foucault, il est là, hein, c'est La vie des hommes infâmes. Ça, à moins que maintenant je confonde totalement vos deux écritures, mais je crois que c'est l'écriture de Michel Foucault. Alors, je dis bien deux dossiers. Hein, un dossier d'Arlette Fage, une boîte et quelques chemises, vous verrez. Un archivage réalisé par Arlette Fage, D'autre part, donc cette chemise cartonnée, composée d'un ensemble de pochettes, dont certaines ont été, la mention a été écrite par Foucault et d'autres par Daniel Defer. Archivage par Daniel, après, si vous m'y autorisez, de donner la nature de l'archivage. Archivage fait après la mort de Foucault, et dans une pochette, vous avez mis « retrouvé sur le divan du studio » concernant, c'est-à-dire le bureau où travaillait Foucault. Donc, il y a des mentions, et qu'après, la situation de l'archive. Alors, prenons le dossier de Foucault. Qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve, et c'est ça qui est, je trouve, passionnant, une sédimentation. Une sédimentation de documents. D'abord, des documents, je l'ai dit, de nature même, matérielle, très différents. Une photocopie du manuscrit de la vie des hommes infâmes. Mais aussi, typiquement, une sédimentation qu'on retrouve beaucoup dans les dossiers de Foucault, avec des dossiers, des éléments de nature très différentes, thématiques. Et là, première surprise, on retrouve une fiche qui, on ne peut pas dire qu'elle soit préparatoire, disons qui est contemporaine de l'histoire de la folie. Donc une fiche des années, fin des années 50, début des années 60. Avec une référence aux lettres. Alors, concernant le format, bon, on a dans cette, j'ai pas mentionné, dans notre équipe anthropologie d'écriture, on a une codicologue, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille sur le papier. Alors, on a fait pour un petit dossier des mots et des choses, on lui a demandé de regarder la nature des papiers et de voir effectivement si toutes les fiches appartenaient finalement à la même au même support. Bon, vous savez que les codicologues, ils travaillent. Alors, évidemment, on peut avoir plusieurs tas de papiers en même temps. Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est que les codicologues ont un savoir qui permet quand même très précisément de dater, puisqu'il y a des catalogues de papiers. Bon. Là, c'est un peu différent. D'après l'entretien avec Daniel et d'après la pratique d'archives qu'on a eue concernant notamment les fiches, on s'est aperçu que dans les années 50-60, Foucault fonctionne beaucoup par demi à quatre qui plient. Et puis après, il passe, vous verrez, pour les mots et les choses, à du format à quatre. Donc ça, on peut supposer que c'est une fiche, d'autant que le contenu est très libre. Bon, Daniel a l'air de tiquer, alors on va... Oui, ça, c'est, il n'y a que vous qui... Alors, ensuite, dans ce dossier, il y a typiquement ce dont on parlait, c'est-à-dire des ensembles documentaires, d'abord, qui ne sont pas de la main de Foucault. Oui, c'est Christiane Martin. Il y a un ensemble de photocopies faites par Christiane Martin. Et puis, un ensemble de listes et d'inventaires qui sont soit de Foucault, soit de Christiane Martin. Je vous en montrerai un tout à l'heure. Donc on a, et c'est ça, c'est sur ce sur quoi je voudrais insister. Oui, il faut que je me presse. Oui. On a, dans ce premier ensemble, en fait, des choses différentes chronologiquement, puisqu'il y a aussi un dossier sur Herculine Barbin, dans le même ensemble. Et surtout, dans ce qu'il reste, très peu de choses concernant l'écriture proprement dite. Quelques pages du manuscrit, deux pages du manuscrit du texte avec Ernest Farr, et seulement le tapuscrit complet, le même d'ailleurs qu'on va retrouver dans le dossier d'Ernest Farr. Mais ce qui demeure surtout dans le dossier, et ce qui est une constante dans l'ensemble des dossiers qu'on a pu, auxquels on a pu accéder, c'est, donc ça c'est le tapuscrit, ce sont des matériaux. Ce sont des matériaux, ça c'est Christiane Martin qui a saisi, voilà, et puis des dossiers thématiques et des inventaires. Alors venons-en maintenant très rapidement, mais j'en suis triste, au deuxième massif. Donc le deuxième massif, c'est les archives d'Alac-Farge, dont elle a, je vous ai dit, extrait quelques documents. Un dossier très différent et qui sont, de ce point de vue-là, beaucoup plus proches de ce qu'on a pu voir chez un Georges Duby. Un dossier, voilà, vous voyez donc une boîte, quelques dossiers. D'abord, de la bibliographie. Avec bon, la grande référence sur les lettres, les lettres de cachet, Franck Guattano, vous avez là, de la biblio, un programme de recherche. Alors c'est peut-être l'un des aspects intéressants de la collaboration, c'est que du coup s'explicite des choses, hein, programme de recherche, la préfecture de police, et puis prendre 1750 à l'arsenal, bon, tac. Dont on ne sait pas d'ailleurs s'il s'adresse, enfin, pour l'instant, disons que c'est le programme de recherche. Et puis, des indications pour, ça c'est une dimension qu'on a vue hier avec Patrick Boucheron, pour Eliane Allot. C'est-à-dire que Michel Foucault, professeur au Collège de France, peut apparemment disposer d'une assistante, qui sera aussi l'assistante de Bourdieu d'ailleurs, puisqu'elle a signé un certain nombre de textes dans les actes, avec... Arlette désigne des choses qui pourraient être intéressantes d'aller voir. Bon. Et puis, ça c'est donc le projet pour Eliane. Et puis après, des explorations et des comptes rendus d'exploration avec les questions que l'historienne se pose. Et qui sont passionnantes dans le détail à regarder, parce qu'on voit le cheminement d'une historienne dans les archives, quelles questions elle se pose, où il faudrait qu'elle aille voir, etc. etc. Et enfin, dimension qu'on retrouvait aussi chez vous, de matériaux, puisque ce sont les fiches qui constituent l'essentiel de l'ouvrage, comme vous savez, du désordre des familles, les lettres. Mais on a ce qu'on n'a pas chez Foucault, un traitement donc thématique de chacune des fiches. Nous avions, enfin, on pourrait discuter entre le tableau et la double page hein, que Foucault avait faite, hein, homme-femme, que vous aviez vu tout à l'heure, discuter des modalités d'approche hein, de l'archive, avec une tentative statistique. Arlette pourra peut-être en parler à un moment donné, avec une discussion sur ce que c'est qu'au fond faire de la stat en histoire. Bon. Alors, on a une archive assez intéressante dans l'archive d'Arlette Farge, c'est une archive donc du travail d'Eliane Allot, avec une catégorie d'approche des différents. Et puisque Eliane Allot avait fait en fait une sorte de classement entre intéressant et joli, fond et forme, style. Et donc on a comme ça un certain nombre de fiches qui sont des photocopies et qui devaient circuler entre les deux collaborateurs. Et dans le dossier d'Arlette Farge, des fiches qui témoigne si besoin était que Foucault était allé dans les archives et avait donc copié très minutieusement l'ensemble des lettres, enfin un ensemble de lettres. Il en avait, voilà. Archives de la collaboration maintenant, qui font partie du dossier, le plan et la répartition, que j'ai évoqué tout à l'heure, mais aussi notes sur une réunion et sur sur une rencontre et une discussion et les points qui ressortent, notamment des dossiers qu'on va retrouver, le cachet, l'inessentiel, comme des dossiers thématiques dans la boîte d'Arlette Farge. Mais je vais très vite. Et puis, la question du repentir qui devait faire l'objet d'un second ouvrage qui n'a évidemment pas pu se faire. Enfin, ce qu'il n'y a pas dans le dossier Foucault, dans les archives Foucault. À ma connaissance, et encore une fois, on travaille sur des éléments de massif, hein, donc il faut être vraiment très prudent. On a par contre dans le dossier d'Arlette Farge l'ensemble des lettres qui ont été des dossiers qui ont été sélectionnés pour l'édition chez Gallimard Julliard. Et enfin, l'échange du dernier texte avec les corrections l'intervention de François Eval qui a fait le facteur. Et c'est ça qui m'intéresse sur la pochette, surtout des éléments montrant la discussion sur éventuellement la manière dont la conclusion allait être construite. Voilà, je m'arrêterai là parce que je ne veux pas. Ce qui m'importe là, c'est d'essayer de montrer comment on a vraiment, à travers les deux dossiers, deux manières aussi d'articuler et de travailler avec l'archive, et qui ne sont pas contradictoires, qui ne sont pas ni l'une intéressante ni l'autre pas intéressante, etc., mais qui sont précisément ce qui nous semble intéressant là à travailler. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai déjà parlé trop trop longtemps.
On peut prendre quelques minutes de questions avant la pause salutaire qui va arriver.
Sachant que Arlette n'est